Quel fruit elle a donné, cette idéologie? Alors, on va y venir. Hein. Donc, on a vu qu'il y avait, à cause de cette défragmentation, de cette déstructuration des grandes vérités. Alors, je ne dis pas que toutes ces vérités étaient vraiment vraies, mais il y avait du juste. Mais on a tout fait sauter. On a dit, arrêtez avec tout ça, laissez-moi vivre. Je vais créer mes propres vérités. OK. Hein. Mais tout ça, ça fait qu'il y a une perte de repères. On est en perte totale de repères. Les jeunes, notamment, ils se disent, mais attends, les vieux, ils vont où? Oh, les vieux, vous êtes où? Puis en même temps, ils disent, taisez-vous, nous, on sait. Une espèce de paradoxe qui est là. Donc, il y a une perte de repères, il y a un individualisme exacerbé. C'est-à-dire qu'on a toutes les peines du monde à avoir des amis aujourd'hui. Parce que chacun, il y a tellement de choses à faire que chacun va trouver son bonheur ailleurs. Hein? On devient complètement autonome. La cellule familiale aussi s'est décomposée. Quand on voit le nombre de familles recomposées, on ne parle pas de famille normale, de famille recomposée aujourd'hui. Hein. Jean-Paul Sartre, il a dit à un moment donné, c'est un grand philosophe, enfin un philosophe, il a dit, l'homme est condamné à la liberté. Il est condamné à la liberté. Vous avez voulu la liberté? Eh bien, vous l'avez maintenant. Vous allez en faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de votre liberté? Ben voilà ce qu'on en a fait. Et on applaudit des deux mains. Moi, pas. Moi, ça me désole. Moi, je suis à la recherche de quelque chose qui va remplir ma vie. Moi, je ne veux pas de postmodernisme dans mon existence. Hein? Je lis un article sur 24 heures. Donc, le journal 24 heures, qui ne date pas d'il y a un siècle. Hein? Génération solitude. Voilà ce que le postmodernisme nous a amené. En fin de compte, si on regarde les choses dans les yeux, on n'a jamais été aussi seul sur cette planète. Alors qu'on a des moyens de communication invraisemblables aujourd'hui. À l'instant même, je peux parler avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. C'est impressionnant. Mais je ne suis pas seul, je suis entouré de 8 milliards d'individus. Ben écoutez ce qu'ils disent. Génération solitude. Malgré la multiplication des moyens de communication, le célibat et l'isolement progressent en Suisse. C'est un pays où c'est la paix, on ne reçoit pas des bombes sur la tête toutes les 30 secondes, là, c'est incroyable. Hein. Dans les années 30, seuls 8,5% de la population était constituée de personnes seules. Aujourd'hui, on en est à 38%. Alors, ce n'est pas pour stigmatiser le célibat, attention, hein, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on peut autant bien vivre le célibat que le mariage. Les deux sont un charisme. Mais le monde ne connaît pas le charisme, le don de Dieu du mariage ou du célibat. Moi, j'ai vu des célibataires magnifiques, il y en a parmi nous. J'ai vu des couples magnifiques. C'est un don de Dieu. C'est un charisme. Donc, le résultat du postmodernisme, c'est la solitude. Je vais quand même un petit peu vous ramener dans les années 60, hein, parce que c'est là que tout a démarré. Hein. C'est là que mes yeux aussi se sont ouverts. C'est là que j'ai compris ce qui est en train de se passer. Hein. Parce qu'il y a des tremblements de terre. Hein, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup. Et les années 60, ça a été un immense tremblement de terre. Parce que c'est là qu'on a fait péter la baraque, comme on dit. Hein. Alors vous vous rappelez, pour les moyens, les comme moi, enfin voilà, la guerre du Vietnam, hein, et les monstres manifestations aux États-Unis, des centaines de milliers de personnes qui descendent dans les rues pour protester contre la guerre. Alors c'était bien. Make love not peace. Faites l'amour, pas la guerre, exactement, hein, avec le sigle, là, vous vous rappelez. Alors, il y a eu des monstres manifestations. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Ça a donné une ouverture. Bien sûr, la jeunesse américaine était souvent à l'origine de ces gros changements. Qu'est-ce qui est arrivé? Le mouvement hippie, dans la même période, les années 60. Et le mouvement hippie, c'était quoi au départ? Hein, c'était la liberté, c'était les communautés. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça? Après, il est venu la drogue. Et il est venu, en fait, les gourous hindous. Il y a eu mai 68, on a tout fait péter. On s'est dit, hop, on lance tout en l'air, et puis on verra bien ce qui retombe. Voilà, le résultat c'est ça, c'est la solitude. On est sur la planète Terre, mais on est seul. Donc 38%, c'est pas rien. Et en Suisse, hein, on ne parle pas d'un pays sous-développé, ou je ne sais pas quoi, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est intéressant, mais je ne veux pas faire très long là-dessus. Qu'est-ce que dit Ésaïe 53? Vous connaissez par cœur Ésaïe 53, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe 53? On sait que c'est, voilà, ça parle du Seigneur, hein, qui donne sa vie sur la croix pour nous. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, hein, etc. Voilà, verset 6. Il n'est pas venu seulement pour nos péchés, Jésus. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. La Bible l'annonce déjà. Jésus n'est pas seulement mort pour tes péchés. Il est mort parce que tu étais errant. Même si pour toi, tu étais bien vivant sur cette terre. Mais pour Dieu, tu étais en train d'errer dans un désert. Le désert de ce monde. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ben, c'était ça. Puis on essayait de s'accrocher à quelque chose. Maintenant, c'est pas. On était vraiment errants. Moi, ça m'a. Donc le constat, c'est qu'on va droit dans le mur. Le postmodernisme nous amène droit dans le mur. Pire encore. Pire encore. Parce que la parole de Dieu, c'est le journal de demain. Il vous annonce qu'il y a le mur qui arrive, mais il vous annonce ce qui va se passer dans le mur. Hein? Vous savez que la Bible parle de la fin de toute chose. Et la Bible nous dit aussi que nous devons considérer la fin de toute chose. Au début, ça va toujours bien. Vous avez déjà remarqué, quand quelqu'un commence un nouveau travail, oh, c'est super, oh, les gens sont sympas au travail. 6 mois plus tard, mais c'est pas possible, mais machin, mais... puis le patron, et puis celui qui... Vous avez déjà vu? Il y a des fois des fréquentations. Oh, mais cette fille, ce gars, il est magnifique et tout. 3 mois plus tard, bon, on va réviser la chose. Donc, voilà, il faut considérer la fin de toute chose. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Et l'apôtre Pierre nous dit au chapitre 4, 1er épître de Pierre 4, 7, « La fin des choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Oh, la prière, hein? Si, parce que la fin des choses approche. Hein? Où va nous conduire le postmodernisme? Eh bien, il va nous conduire là où la Bible nous dit qu'il va nous conduire, vers la fin de toute chose. Et la fin de toute chose, ce qui est étonnant, puisque le monde est libre, c'est qu'on va se retrouver sous la puissance d'un gouvernement mondial. On ne vous demandera pas ce qui vous plaît, on ne vous demandera pas quelle est votre vérité, vous allez obéir. Le chat, il est de retour, les souris, elles ne dansent plus. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Je pense que vous l'avez lu, mais quand on réalise que ça pourrait être, ou ça pourrait être déjà maintenant, ou dans quelques temps, moi je ne suis pas à chercher hein, les signes des temps pour dire c'est dans une heure, ou bien c'est tel et tel jour. Mais discernez les signes des temps. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la pensée globale? Qu'est-ce qui est l'idéologie dominante? Vers quoi on est en train de nous... On ne devrait pas siffler un pasteur. Nous tirer. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Apocalypse 13, 3. Et je vis l'une de ses têtes, de la bête, comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. D'accord, d'accord. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, en sa présence, et l'obligeait, la terre et ses habitants, à adorer la première bête. Merci le postmodernisme. Merci pour la liberté que tu nous as donnée. Hein? Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Hein? Et puis après, vous avez ce fameux passage. Et elle fit que tous, waouh, tous, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Que ça vous plaise ou pas, vous allez vous faire pucer. Une petite puce, la main droite. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est clair? Voilà ce qui attend notre société. Et tous les signes sont là pour venir confirmer une parole qui est vieille de 2000 ans. Excusez du peu, hein? Si ça, ce n'est pas un discernement des choses. Et vous vous rappelez, celui qui a discerné ça, il était exilé sur une île rocheuse de Patmos, il n'y avait pas un hôtel à l'époque, pas un touriste, il était dans sa grotte, mais il était dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit lui donne de découvrir ces choses-là 2000 ans avant. Waouh, Dieu est grand, hein? C'est toi qui disais 15 fois waouh ce matin? Tu peux le dire une 16e fois, hein? Tu peux le dire une 17e fois, une 18e. peut y aller. C'est waouh. Mais vous vous rendez compte? Alors des fois, on est pris dans nos petits soucis quotidiens, dans nos petits bobos, dans nos petits trucs. Bien sûr qu'il y a tout ça, bien sûr. Mais il y a plus que ça. Prenez un peu de la hauteur. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Hein? Dit l'esprit à Jean. Puis Jean, ouh, il monte et puis il regarde. Ouh là là, bon, il a compris. Hein? Voilà, on va terminer maintenant sur le rôle de l'Église. Parce que là, je crois vraiment qu'on a besoin aussi de discerner des choses, parce que c'est devenu quelque chose de tellement normal, l'Église, de tellement naturel. Puis on y va, puis on est servi, puis on nous donne la Sainte-Seine, puis on nous donne des messages, puis on fait de la louange, et puis tout. Mais elle est là, l'Église. Et puis on se permet de partir quelques années, puis après on revient. Elle est toujours là, l'Église. On se permet de vivre n'importe comment, on s'éloigne de Dieu, on revient. Elle est toujours là, l'Église. Et, oh, elle est toujours là, l'Église. Alors je ne dis pas l'Église de réveil, hein. Mais l'Église, c'est lieu où on vous accueille tel que vous êtes, tel que je suis, peu importe ce que j'ai fait. C'est le lieu de salut. C'est le seul lieu de salut dans le monde, sur la Terre, sur la planète Terre. Il n'y a pas d'autres endroits. Je ne parle pas encore une fois de l'institution. Je parle du corps de Christ. Jésus, en donnant sa vie, il va donner naissance, hein. Il était enceinte de quelque chose, Jésus. Hein. Il n'y a pas que les dames qui sont enceintes. Jésus était enceinte de l'Église. Il la portait dans ses tripes. Il est mort pour elle. Il est mort pour tous ceux et celles qui un jour allaient croire en lui et qui allaient spirituellement former un corps nouveau. Il y a le corps des sapeurs-pompiers, boum, ils éteignent le feu. Il y a le corps de la fanfare, boum, 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 ils jouent tous la fanfare. C'est un corps. Hein. Il y a le corps humain. Vous n'avez pas laissé une partie de votre corps à la maison, vous n'avez pas laissé un bras dans votre lit ce matin. Hein? Vous êtes un corps. Le corps de Christ rassemble tous les croyants de tous les temps et forme une entité autant réelle que tous les autres corps. Mais elle a un mandat spécial. Elle a quelque chose de particulier, l'Église. Tous les croyants qui nous ont précédés, tous les croyants voilà, qui étaient là avant nous, ils ont vécu sur cette terre dans l'atmosphère déjà du royaume de Dieu. Encore une fois, avec les petits bobos de tous les jours, avec les grandes questions existantes, enfin, oh, je vais trouver du travail, oh, est-ce que mon petit garçon va être guéri? Ça fait partie de tout ça. Mais il y a ce plus qui fait qu'il y a l'atmosphère du royaume de Dieu. Et l'Église devrait être ce lieu, et doit être ce lieu, où quand on arrive, quelque chose se passe, on se dit, mais attends, là, c'est ce qui m'est arrivé. La première fois que j'étais à l'église de réveil à Bienne, je suis rentré là-dedans, j'étais complètement novice, puis je dis quoi, il y a des jeunes et des vieux, ils chantent les mêmes chants. Et puis ils tapent tous dans les mains. Et puis ils ont la liberté de prier, les jeunes et les moins jeunes, et les vieux. J'ai dit, mais c'est super ici. Voilà, un petit exemple. Quand on a accueilli cette jeune hindoue qui venait ici parce que son amie avait un cancer, elle arrive chez nous, elle nous dit « Mais il y a une paix dans votre appartement, je ne comprends pas. » Ben, on se regardait avec Yvette, on se dit « T'as l'impression qu'on ne venait pas de s'engueuler. Hein, » c'était... Mais elle nous dit « Je sens une paix. » Elle vient ici à l'église le mardi soir, première fois de sa vie qu'elle participe à une réunion de prière dans une église. Elle nous dit le lendemain « Mais chez nous, dans l'hindouisme, ce n'est pas du tout la même chose. » Chacun va individuellement à son temple pour faire ses prières pour lui. Et là, j'ai entendu plein de gens prier les uns pour les autres. Ouh, comprenez? C'est la première fois qu'elle était dans une réunion de prière chrétienne. Donc, il y a une atmosphère du royaume de Dieu. On l'a vu ce matin, il y a une priorité à l'adoration de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui nous entraîne dans cette adoration. On reçoit une identité de fils et de fille de Dieu. Ça, c'est autre chose que le postmodernisme, hein. Vous êtes le corps de Christ. Et Dieu n'a pas dit, bon ben voilà, hop, j'en rajoute un, j'en rajoute dix, allez, il y en a 500 qui se convaincent, allez, hop, dans le... Pas du tout. Hein. Il est très clairement exprimé dans 1er Épître aux Corinthiens que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et c'est là que je vous dis, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qu'est l'Église vraiment? Dieu ne vous a pas juste sauvé pour dire... Hop, va à l'église, réveille. C'est bon, allez, t'es bon là, jusqu'au bout de ta vie, ils font tout pour toi là, hein? Allez, ils se donnent. Hein? Et Dieu a dit qu'il a disposé chacun dans son corps. Où est-ce que tu es dans le corps de Christ? Quel est ton lieu? Ton lieu de vie, ton lieu de service, ton lieu de... Si Dieu me dispose. Et puis ensuite, Dieu établit. C'est pas la foire d'empoigne, hein, c'est pas... Non. Dieu établit. Il suscite des hommes, des femmes, effectivement, qui ont des ministères différents. Mais toute l'Église, tout le corps de Christ est fait de cellules vivantes. Toute l'Église. Mais bon, je vais pas m'allonger là-dessus. Mais pour vous dire que, et ça c'est discerner quelque chose, c'est que l'Église est l'antithèse du modernisme. Puisque le modernisme a ouvert les vannes, et puis on l'a vu au dernier message, ça part dans tous les sens. Moi j'ai l'impression de voir les gens qui flottent partout, ils savent plus où aller, ils savent plus dans quelle direction. Alors que Jésus, lui, rassemble son troupeau. Il en fait un corps bien coordonné, où chacun trouve sa place, où on se bénit, on s'encourage, on se fortifie. Bon, des fois, ça dérape un peu, on dit des choses maladroites. Mais l'essentiel est là. On vit l'atmosphère du royaume de Dieu, on devient des adorateurs, on discerne ce que le Seigneur, comme les fils d'Issachar, voyez. Ça, c'est quelque chose d'actif, c'est du proactif, c'est quelque chose d'enthousiasmant. Donc, l'Église est l'antithèse même du postmodernisme. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule contre-culture dans notre monde, dans notre société, qui nous donne une alternative. Vous n'avez pas d'autre alternative. Vous pouvez vous noyer dans 100 000 bassins, si vous voulez, mais l'Église est unique. Et rappelez-vous ça, il n'y a pas de plan B. Parce qu'en France, quand ça se passe mal avec un futur président, on cherche un plan B. Eh bien, pour le Seigneur, il n'y a pas de plan B. Parce que pour lui, l'Église, c'est l'Église et ça sera jusqu'à la fin. Il ne va pas changer en cours de route parce que ça ne se passe pas si bien qu'on le voudrait et tout. Ça, c'est le regard des hommes. C'est peut-être notre regard, mais pas le regard de Dieu. Il a commencé avec l'Église, il finira avec l'Église. Et il va l'enlever glorieusement. Sans tache, ni ride, ni rien d'irrépréhensible. C'est Dieu. Donc il ne va pas changer ses plans. Il ne l'a pas fait pour Israël. Pourquoi est-ce qu'il le ferait pour nous? Il aurait eu l'occasion de le faire pour Israël. J'ai fait alliance avec Israël. Et je serai fidèle jusqu'au bout avec Israël, même s'ils font les plus grandes bêtises qu'ils peuvent. Hein? Donc voilà. Et Jésus a dit, Matthieu 16, 18, « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. » Les portes de l'enfer, hein, ce n'est pas juste quelques zouzous là, qui essayent de manipuler l'Église, etc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Donc l'Église, mine de rien, c'est le dernier rempart contre le postmodernisme et ce qui va venir. Deux choses pour terminer. Pourquoi? Parce que l'Église est appelée, comme on l'a lu tout au début, à être l'appui et la colonne de la vérité. Vous avez vu tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui pour déconstruire la parole de Dieu? Tous ces, entre guillemets, grands théologiens qui sortent, qui déconstruisent, qui défragmentent la parole de Dieu. Je viens de dire, pas plus tard qu'avant-hier, qu'on a sorti maintenant une Bible pour les gays. Pour les gays, pour les lesbiennes et les homosexuels. Je ne les juge pas, hein, je dis juste pour montrer voilà, quelle atmosphère on est en train de vivre. Et on a enlevé tous les versets bibliques où l'homosexualité est mise en cause. La Constitution suisse, dans laquelle se trouve un article qui dit qu'on ne doit pas utiliser de propos racistes, va être agrémenté maintenant de propos homophobes. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose contre, ou que vous citez un verset biblique contre les homosexuels, vous risquez une amende ou vous risquez de vous retrouver en prison. Vous voyez qu'on le filet est en train de se resserrer? Mais non, on peut encore. Moi, je me souviens, dans les années 60, on se fichait d'eux, ce qui n'était pas juste, hein, attention. Hein. On se moquait d'eux, vraiment, franchement. Hein. Mais aujourd'hui, vous n'osez plus dire le moindre petit mot à l'égard ou contre les homosexuels. Donc, on voit que la vérité, c'est quelque chose de fondamental. Et ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, la vérité. La vérité est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous, on ne se bat pas pour des propos philosophiques. On va pas faire la guerre sur quelques passages de l'Écriture. L'Église est là pour présenter Christ. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a une vérité et les gens ont besoin de l'entendre. C'est parce que tu l'as entendu un jour par quelqu'un que tu es là ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est parce qu'un chrétien a pu dire, oui, il y a une vérité qui existe. Moi, tu parles, moi j'ai ma propre vérité. C'est toujours comme ça que les gens commencent. Puis après, on discute, on gnignigna. Puis tout d'un coup, l'esprit de vérité commence de travailler dans le cœur. Puis la personne commence de réfléchir. Et puis tout d'un coup, pendant la nuit, boum, là, il y a... Hein? Moi, c'est ce qui s'est passé. Hein? Et puis la deuxième chose, comme on l'a vu, c'est l'importance du corps de Christ. Vu que tout est en train d'être défragmenté, puis, c'est juste le contraire qu'on doit vivre. On est dans un esprit contraire. On construit l'Église. On travaille pour l'Église. On ne vient pas juste à l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous êtes juste venu à l'Église, c'est déjà bien. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a plus. Il y a beaucoup plus. Et je pense que c'est là, quand Nicolas parlait des hommes et des femmes spirituels, c'est peut-être là qu'on doit commencer de devenir spirituel. Ça veut dire, waouh, moi je veux vraiment m'engager pour la vérité, pour Jésus. Et bien sûr pour ce qu'il a dit, parce que Jésus a dit des choses. Hein. Et puis je veux m'engager pour l'Église, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et tout prend une importance nouvelle. Si dimanche prochain tu viens ici à l'église en disant « Seigneur, donne-moi une parole de sagesse pour quelqu'un. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin d'une parole de sagesse. Je m'offre à toi pour que tu puisses la dire au travers de moi. » Peut-être qu'il ne le fera pas. Mais si tu te proposes, il dispose. Si tu ne te proposes pas, il va rien se passer. Le Saint-Esprit ne va pas tomber dessus comme le feu du ciel pour t'amener à prophétiser. Ou pour dire, ah, j'ai l'impression que Dieu aimerait guérir ce matin quelqu'un qui a ceci. Comprenez? Donc voilà, moi j'aimerais vous encourager dans le temps qui me reste à devenir encore un peu plus l'Église. Et peut-être que là, nous avons aussi besoin de discernement. Hein? Et je termine avec ce passage, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Non, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de nous laisser entraîner dans le siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et c'est ce que nous sommes appelés à devenir. Amen. Il y a du boulot, hein. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que vraiment tu inspires notre intelligence, notre esprit, notre raisonnement. Tu cherches à y mettre ta pensée, ta vision des choses. Pardonne-nous pour les fois où nous restons sourds, Seigneur, à tes appels, où nous n'obéissons pas à ce que tu nous dis, où nous ne nous mettons pas à ta disposition pour nous laisser entraîner dans ce que tu veux que nous fassions pour le bien de l'Église, pour le bien de ce monde qui nous entoure. Seigneur, parfois nous avons un cou raide, nous avons un cœur dur, nous avons des yeux qui ne voient point, nous avons des oreilles qui n'entendent point. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous invites ce matin à prendre conscience de ce qu'est réellement l'Église sur cette terre. Tu nous appelles à prendre conscience de la manière de regarder l'Église comme toi tu la regardes. C'est ton corps, Seigneur Jésus. Et tu prends soin de ton corps et tu veux encore, encore et encore le bénir. Je te demande, Seigneur, que ouais, dans ces heures, ces jours qui viennent, tu fasses de nous, Seigneur, un corps vivant, que nous puissions nous remettre en question et discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci.